Ce soir, on parle de baise.
Moi, je veux du huc. Ah, mon pute, la nuque.
La banane rose.
Bonsoir à tous. Bienvenue. Comment allez-vous, nos chers auditeurs? Bienvenue quasiment un mois et demi après la première de la banane rose, et c'est déjà la dernière. On ne vous ment pas, quand on vous a dit que c'était à l'improviste ce semestre, c'était bien le cas. Nous sommes dans une phase de restructuration, de réorganisation, de recrutement, donc des changements arrivent et on espère vous proposer. D'ailleurs, même les micros nous abandonnent à ce que je vois.
Oui, j'avoue, je viens de voir ça, que c'est n'importe quoi.
Il faut savoir qu'on a tous... Le studio est en mode Noël, on a tous des petites boules. quoi de mieux que pour parler de sexe ce soir?
Exactement.
Enfin, de sexe.
On peut les toucher comme ça.
Exactement. Oh. on va vous parler de transidentité, des personnes transgenres. C'est un sujet un peu touchy, mais on avait envie de faire cette chronique depuis quelques temps déjà. Ça sera peut-être un peu plus politique que réellement sexuel ce soir, mais on espère que ça vous plaira quand même. Mais avant ça, je vais passer à la présentation de notre chère équipe ce soir. On commence par Clara. Comment vas-tu, Clara, en cette fin de semestre?
Ça va, je me sens un peu comme un tapis, je suis super fatiguée.
Oh.
Oui, je me fais rouler dessus par la vie, mais ça va.
Quelle belle image.
Merci.
On aimerait se faire rouler dessus par d'autres choses, deux fois.
Tout à fait.
Non, mais on comprend, on est tous un peu dans ce stade de fatigue, c'est d'énervement, ça. Un peu ce moment où t'as envie d'abandonner, mais ça fait déjà 3 mois que t'es en train de faire ça, donc tu te dis... Faut
exact.
Pas lâcher maintenant, quoi.
Exact, mais c'est pas grave, c'est la période. Après, on aura Noël, on va manger.
Et les examens. Non. Je veux pas être défaitiste. Exactement. Et puis à ma droite, on a Leïla. Comment vas-tu, Leïla?
Hello, bah ça va, c'est très très bien. Comme elle a dit, je suis un tapis, et moi, un petit tapis parce que je suis pas trop grande, mais ça va. Il y a pas beaucoup de monde qui passe dessous, mais ça passe quand même.
Et puis, mais comment, en fait, on pourrait te demander comment se passe ce premier semestre avec nous, même si c'est que ta deuxième émission. Est-ce que ça t'a plu?
En vrai, j'adore. C'est la banane rose.
C'est vrai.
Moi, je dirais
quand
que
même.
Je pense que tu es un chouïa déçu parce qu'on n'a pas fait assez.
Non, ça va, on va faire plus après. Hein.
Et on ne pourra pas faire pire, je pense.
Non, non.
Et on n'a pas encore eu cette émission qui peut nous faire regretter de faire partie de la banane rose si les parents nous écoutent. Je ne sais pas si tu vois ce que tu veux dire.
Ah, mes parents nous écoutent. Hein.
Oh là, ok. c'est bon à savoir. Comme ça, je...
En vrai, il y a toute ma famille. Il y a aussi mon frère, il y a ma pote, il y a tout le monde.
Ah, c'est mignon.
Mais
je sais que j'irai... Bon, bonsoir à tous, et je sais que j'irai mollo sur les questions.
Non, non, non,
okay. Non, mais ça ira. Et puis, toujours à la tech, notre cher et tendre Léo, comment vas-tu?
Très très bien, bah, pour l'instant ça fonctionne, du coup...
Toujours la forme, cool. Rien de lâche.
Exact, pour l'instant.
Comme d'habitude, hein, la cinquième personne de cette équipe, c'est bien évidemment le programme, et il est encore moins efficace que nous, donc tout peut se passer, on vous prévient. Et on vous rappelle également que vous pouvez sans autre réagir à notre émission, si vous le désirez, au 079 921 47 00. 079 921 47 00. Clara sera en charge du téléphone ce soir.
Tout à fait.
Et elle nous lira quelques réactions s'il y en a. N'hésitez pas à réagir.
Viens m'écrire.
Écrivez.
Et aussi toi, hein. Faut pas t'oublier. Hein,
oui, également moi, Nicolas.
Comment
tu
vas?
Salut,
Nico.
J'avais déjà oublié la dernière fois. Nicolas, donc l'animateur entre guillemets qui reprend faiblement les rênes après la divine Virginie qui avait assumé ce rôle pendant 2 ans, je crois, 3 peut-être, qui était d'un talent inégalable, donc très compliqué à remplir, mais je fais de mon mieux.
Quel hommage.
Oui, bah, il faut. On espère qu'elle reviendra nous rendre visite rapidement, parce qu'elle avait une plume divine et une voix
fabuleuse
à faire jouir. D'ailleurs, elle s'est reconvertie, hein. Léo peut nous confirmer. Fais pas des téléphones roses. Non, je rigole. je rigole, bien sûr. Mais tout de suite, on va commencer par une petite musique. Après cette introduction, on va écouter Annie Cooney de Polo et Pan. Et c'était Annie Cooney de Polo et Pan. On a tous entendu ce morceau tourner tout l'été. Je pense qu'on peut le confirmer.
Moi, c'est la première fois que j'entends. Il est pas mal.
Ah là là, Léo.
Ouais, non, mais j'ai rien écouté. Moi
aussi, pour te soutenir, Léo, pour le coup.
Ah, c'est bon, c'est
okay,
bon.
Ok. Bon,
Léla
est plutôt avec moi. Exactement.
Mm-hmm. J'ai touché à jamais, je suis prête.
Et puis, on va tout de suite enchaîner avec la chronique de Léo. Il faut savoir que ce soir, 3 chroniques parleront des toilettes, mais sous des angles différents. Donc, on commence tout de suite avec l'angle... Est-ce qu'on peut dire original?
Oui, particulier, inattendu.
Alors, t'es un peu égocentrique. Hein,
Non, mais disons que je me dis à chaque fois, il y a peu de chances qu'on me vole l'angle dont j'ai pris le sujet. En général, c'est plutôt par rapport à ça.
On se réjouit d'écouter ça.
Avec Léo, tout est à prendre au second degré. Attention, pour les auditeurs, il faut mettre des guides.
Donc, voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une polémique. Une polémique d'un McDonald's au Brésil. Quoi, leur nourriture ne serait pas la plus saine du monde ? Qu'ils polluent avec leurs déchets plastiques, que les employés sont mal payés et traités n'importe comment, que c'est un sponsor officiel des JO, c'est vrai en plus, qu'ils font plus d'un milliard de fraude fiscale, enfin d'optimisation fiscale en Europe. Non, là c'est une polémique beaucoup plus sérieuse. En fait, il y a un McDonald's au Brésil, ils ont décidé d'installer, tenez-vous, des toilettes pour les personnes transgenres. Quoi ? C'est le cousin du bois. Du bois, Et là, donc, il faut fermer cette saleté, s'indigne une cliente. Elle interpelle aussi les conseillers municipaux, les exhortant à prendre soin de la ville et à mettre fin à cette honte. Rendez-vous compte, des toilettes ! Ah non, c'était après que je devais faire ça. Vous vous doutez bien que la vidéo a fait le buzz et que les toilettes ont fait polémique. Dans un pays où la religion est très présente, ça ne passait pas très bien pour une partie de la population. Et en y réfléchissant, religion ou pas, en fait, ça n'aurait pas changé des masses non plus. Et ça me fait penser que je ne dois pas que parler, je dois aussi checker des trucs. Mais ça, voilà, justement, en ayant lu ce truc, ça m'a fait réaliser un truc que je pensais pour acquis. Comment ça se fait qu'on a encore des toilettes séparées ? Dans l'éducation, on a bien aboli les classes séparées. À la maison, on n'a pas des toilettes hommes-femmes, ou un planning genre 7h-23h, c'est les hommes, ou 23h-7h, c'est les femmes. Notez que j'ai mis plus d'heures pour les hommes que les femmes. Mm-hmm. On a peur de quoi ? Lorsqu'on va dans des toilettes hommes, il y a un troupeau d'hommes qui sont en ligne en train de faire l'hélicoptère comme ça. Genre, bah ouais, il y a la ventilation qui fonctionnait plus, donc on est là, man's power.
Il simule hein, pendant qu'il dit.
On a peur de quoi ? D'avoir plus accès au lavabo, car toutes les femmes vont se maquiller devant le miroir. Les femmes et les enfants n'ont jamais vu quelqu'un faire pipi debout. En plus, voilà, je tiens à le rappeler, les toilettes, il y a des portes. Hein, c'est pas on va tous chier en cercle à se regarder droit dans les yeux. Mais je vais être franc, la séparation homme-femme, ça m'arrange. Quand je vais aux toilettes et que je m'aperçois qu'il y a la queue chez les femmes et que chez les gars, il n'y a rien, je vais pas vous mentir.
Je vais pas mentir parce que je sais que c'est un sujet vraiment controversé. Ouais. Et quand je vois les files des toilettes dans les festivals pour les femmes, mais je suis tellement content d'avoir un pénis, mais je prie le Seigneur, je remercie le Seigneur d'avoir un pénis.
Les privilèges.
Il y a des statistiques qui démontrent pourquoi il y a la queue, c'est parce que une fois par mois, on a les règles.
En plus, on a plus de
couches à enlever, c'est un peu plus compliqué. Des fois, on a des trucs un peu plus...
Même si c'est pour pipi, c'est assis.
Collant et tout, il faut s'asseoir et tout. Donc il y a vraiment des statistiques.
Même au niveau de l'hygiène, c'est-à-dire que...
Bah oui, justement.
Suivant comment, on prépare les toilettes, on les désinfecte, il y en a qui mettent des couches de papier toilette, d'autres qui font des squats. Il y a plusieurs techniques, mais qui se font quand même que le temps est quand même beaucoup plus long.
À part ça, je sais pas si c'est... on peut intervenir et tout.
Justement, il y avait certains trucs,
Ouais, il y a un truc trop problématique, je pense, c'est que tu as dit au début, c'est les toilettes pour personnes transgenres.
Ah oui, tu m'avais dit. C'était...
Mais c'est juste que le être transgenre, c'est que c'est juste que tu as fait une.
Tu m'avais dit de modifier le truc, justement.
Tu fais un parcours et donc peut-être tu voulais dire toilette non binaire. Peut-être c'était ça.
Ah ok, je crois comme j'avais vu dans l'article, c'était écrit ça, du coup j'ai repris tel quel.
Je pense qu'ils sont même trompés parce que c'est juste. Tu fais transgenre, tu fais une transition et donc après, c'est pas...
Effectivement, pour l'appeler. Mais du coup, c'était pour dire que, en tant que gars, c'est quand même pratique de pisser debout et de pas se laver les mains. Ça fait gagner du temps. Mais du coup, j'ai quand même fait quelques recherches et un article de la revue de Conversation rappelle que les toilettes n'ont pas toujours été séparées et que cette division, elle a apparu au début du XXe siècle. Elle s'explique par la montée en puissance d'une idéologie sexiste qui visait à garder les femmes à la maison. Bizarrement, ça rappelle quelque chose. Et les empêcher d'accéder à certains espaces au nom de quoi ? La sécurité. La sécurité, vous pouvez faire passer n'importe quelle loi. Vous pouvez faire peur à tout le monde et ça passe. Et du coup, je trouvais ça intéressant que dans l'espace privé, ça pose pas de problème. Mais en public, non, que nenni, où va le monde ? Avez-vous pensé aux enfants ? Je suis pas en train de dire qu'il faut mettre des toilettes communes, justement, où on se regarde en cercle pendant qu'on relâche les marmottes chacun de son côté. Et du coup, c'est pour ça que je lance le mouvement Chions ensemble, avec des portes, ne vous inquiétez pas. Alors effectivement, ça risque d'être un petit peu gênant au début, mais je me dis qu'il y a moyen de stopper cette ségrégation toilettale. Ça coûte moins cher de faire des toilettes séparées, toilettes pour tous, c'est moins d'infrastructures, et il n'y aura pas de polémique à la con. je ne dirai qu'une chose, chions ensemble. Avec moi, chions.
Chions.
Ensemble, du coup.
Ensemble.
Mais... Ouh là là.
C'est parti. Même le système, il n'est pas d'accord.
Non, mais en fait, du coup, je trouvais le... J'étais assez content juste d'être tombé sur cet article qui disait que, bah, en fait, la séparation homme-femme pour les toilettes, est-ce que c'est nécessaire? C'était un peu ça que je voulais...
Non, bien sûr que non.
Mais...
Après, voilà. dans ma chronique, on pourra voir certaines nuances que du coup, j'ai abordées.
Yeah, okay. Au pire, on discutera dès qu'on aura plus d'infos à droite, à gauche, dans ce cas.
Mais j'aimais bien le fait que tu as dit que c'est rentré en disant en vigueur il y a dans le XXe siècle.
Ouais, mais j'étais même surpris. Je me suis dit, il y avait moyen que ça... Mais j'étais surpris que c'était pas si... C'est quand même récent globalement. Et pourtant, j'avoue que je pense que ça ferait bizarre au début de se retrouver, mélanger les deux dans les mêmes toilettes.
Bah, en vrai, il y a des contextes où il y a déjà des toilettes.
Oui, exactement, c'est ça.
Juste parce que peut-être ils n'ont pas assez d'espace, peut-être.
Oui, exactement. Ça, c'est...
Mais ouais.
Donc voilà. Voilà, c'était mon petit avis. Merci de m'avoir écouté pour mes bêtises.
Alors écoute, on va couper court directement à ce débat, vu qu'on va sûrement le continuer sur les deux chroniques qui vont suivre. Mais tout de suite... La prochaine musique, dont je n'ai pas la liste malheureusement, donc je vais laisser Léo l'annoncer.
C'est Miel de montagne, enfin pourquoi pas de Miel de montagne.
Quoi? Pourquoi pas moi? Très belle découverte, pas ma voix mais Miel de montagne bien sûr, la chanson c'était Pourquoi pas. Tout de suite on va continuer avec une autre chronique sur les toilettes, mais cette fois vue par Leïla.
Alors bonsoir à tous, et ma chronique de ce soir est assez dynamique, dans le sens que je voudrais que tout le monde un peu participe. Il y a quand même des trucs que je vais dire, donc il n'y a pas tout le temps qu'il faut... Il y a des moments de...
Tu nous fermes la bouche si besoin.
Mais donc, la première chose que je voulais dire, c'est que je vais essayer de parler en tenant compte de l'écriture inclusive. Le problème, c'est que je n'ai pas francophone de base, donc c'est encore un peu difficile pour moi de l'utiliser. Et donc, c'est pour ça qu'il y aura sûrement des erreurs et je m'en excuse. Mais ma chronique, c'est sur des réflexions que j'ai faites dans cette période. Donc, dès qu'on a choisi le thème, je me suis regardée autour. Et puis, c'était aussi le moment où, dans les toilettes de l'Infimax, surtout à l'UNIL, sont sortis des distributeurs de serviettes hygiéniques.
Ça, c'est génial.
Ouais, super génial pour les femmes. Tout le monde était vraiment content. C'était un changement pour vraiment tout. On sait pourquoi c'est très important. Mais j'étais assez curieuse parce que je suis juste allée regarder dans les toilettes des hommes.
Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Et en plus, qu'est-ce que j'ai trouvé? Le distributeur de préservatifs.
Ah.
Il y a un distributeur de préservatifs à
l'Infimax, ouais. Ça t'intéresse, hein?
Non.
Non, j'avoue que je suis aussi choquée.
Non, mais j'avoue que je suis choquée parce que je ne l'ai jamais vu, ne savais pas.
C'est ouais, trop exactement, bizarre. C'est plus par rapport à ça. C'est un peu les seules toilettes où il y a ça. Vraiment, l'Infimax, Infipol, les toilettes d'en bas, si vous voulez aller checker. Et donc, c'est très, très problématique. Parce que, juste, le Nil, il a pensé quoi? Les personnes transgenres, il faut quoi? Alors, je vais tout de suite dans les toilettes des femmes. À chaque fois que je dirais femme et homme, je voudrais que vous imaginez juste des guillemets dans votre tête. Donc, il fait quoi, la personne transgenre? Il va dans les toilettes des femmes, il prend les serviettes hygiéniques, puis il va dans les autres toilettes. Là, il peut se changer. Non, c'est super gênant. On met en difficulté la personne, mais surtout, on ne la représente pas. Et c'est une réalité. Ces personnes ne sont pas deux ou trois. Ces personnes sont des personnes de un, et puis ils font partie de la société, et vu qu'ils font partie de la société, il faut les représenter. Ils sont là. Et je voudrais aussi rajouter, c'est une remarque par rapport aux personnes, aussi les personnes transgenres, mais aussi les personnes non-binaires. Parce que, par exemple, moi, personnellement, je suis une personne non-binaire. Alors, je fais quoi? Je vais une fois dans les toilettes des femmes et une fois dans les toilettes des hommes. Parce que je veux faire un peu, vu que je n'ai pas le choix d'aller dans mes toilettes. Mais surtout, les personnes... ils ne sont pas représentés, ni les personnes non-binaires, ni les personnes transgenres. Et donc, c'est super dérangeant. L'UNIL, qui est quand même une université pour étudiants, qui doit être super active, elle n'est pas là pour nous. Fais pas attention. Et donc, ça m'a vraiment touchée. C'était une problématique que j'ai ressentie personnellement. Mais aussi, pour les autres, ça me touchait beaucoup. Donc, j'ai écrit à une association qui s'appelle Plan Queer, l'association de l'université pour UNIL-EPFL. Et c'est magnifique, ils ont vraiment une super équipe. Et j'ai écrit en demandant si eux aussi, ils avaient remarqué cette chose. Et puis, ils m'ont dit oui, effectivement, ils l'ont remarqué. Et leur idée, c'était de parler avec l'université, en particulier avec Unibat, qui s'occupe des toilettes, mais aussi le bureau des légalités. Et ils devaient m'écrire pour me dire comment ça se passait. J'ai écrit aujourd'hui une mail, mais ils ne m'ont pas encore répondu, donc j'espère que ça va bien se passer. Parce que...
Le souci, c'est l'administration de base, du coup, là, pour en plus ce genre de truc où ça va mettre un peu plus de temps à être décidé.
Et en plus, ouais, je sais que on en a parlé aujourd'hui, notamment au niveau de l'écriture inclusive, pas inclusive, épicène, pardon. Mm-hmm. Et en fait, c'est pas imposé dans toute la faculté. Par exemple, c'est demandé, ça a été mis à l'examen et certaines facultés l'ont accepté très vite, par exemple la faculté des SSP, alors que d'autres facultés, par exemple la faculté de FDCA où je suis, faculté de droit, sciences criminelles, etc., eux ne l'ont pas inclus dans leurs documents et c'est pas encore appliqué à ce jour. Donc ils ont un système très fédéraliste où ils discutent, ils mettent en place des groupes de discussion, d'évaluation, et ensuite ils transmettent ces rapports aux facultés, et c'est aux facultés à eux de prendre ces décisions.
Et c'est très problématique quand même parce que ces personnes, ils doivent juste attendre. Les non-binaires, ils vont pisser par terre et puis les personnes transgenres, ils font un peu là, un peu ici, je prends les serviettes et puis je vais dans les autres toilettes.
C'est vrai.
Et c'est vraiment juste ignorer une réalité parce qu'on pense la réalité, c'est binaire. Non, c'est vraiment pas binaire. Il faut se rendre compte. Mais donc, j'espère qu'ils vont tout de suite, pas tout de suite, mais ils vont faire bientôt savoir l'association Plan Queer, que d'ailleurs, je vous invite vraiment à suivre ou à aller voir ce qu'ils font. Ils font des soirées super belles et puis c'est vraiment important qu'ils nous représentent aussi dans le campus. Et dès que je saurai la nouvelle, je vous dirai.
Volontiers.
Et puis, heureusement, de ce que l'université a annoncé, c'est qu'en 2022, donc c'est dans un mois, il y aura les toilettes de genrées, non genrées, à l'université.
Ils ont déjà changé dans plusieurs endroits.
Ok. Ouais. C'est où parce que moi j'ai.
Il me semble que c'est à Géopolis. Ils ont déjà changé les stickers.
Ok.
Ouais. De faire quelque chose de plus inclusif.
Ok.
Ouais.
Petit
à petit, en tout cas, je sais que ou c'est en projet ou c'est déjà collé. Parce que c'est mon oncle qui s'en occupe et du coup, il s'occupe justement de tous les changements des stickers. Du coup, c'est cool.
J'espère qu'ils vont faire un peu partout, parce que moi, perso...
Le but, c'est de faire sur tout le campus.
Ouais.
Sur tout le campus universitaire de l'UNIL. Après, le PFL, je ne sais pas comment ils le gèrent, mais je sais que l'UNIL, en tout cas, c'est le projet qui est à venir et qui sera mis en place très bientôt, si ce n'est tout de suite.
C'est vraiment très important, je pense.
Question un peu naïve. Est-ce que vous verriez plutôt de mettre ces distributeurs à l'extérieur des toilettes, par exemple, à l'endroit où, en général, on voit les toilettes, quand il y en a deux... c'est toujours gauche ou droite
simple,
et on pourrait les mettre
au centre
devant, avec les préservatifs et tout
mais
ce qui
surtout, va, ça me fait très...
Mais ça ferait aussi beaucoup tomber le tabou des règles, par exemple, où tu vas demander, genre, excuse-moi, t'as pas une serviette,
tu es
super
personne qui la met dans la poche.
Qui la cache, alors que... Enfin, moi, je me suis retrouvée justement l'autre jour, j'étais au travail et j'ai demandé à plusieurs femmes autour de moi s'il y avait, mais je me sentais gênée, je devais me cacher de demander ça, alors que c'est... Enfin, c'est naturel, tout le monde le sait. Enfin, pourquoi est-ce qu'on doit encore se cacher et subir le tabou de ça alors que c'est déjà suffisant de les avoir.
Les règles en soi, biologiquement, parce que souvent on se base sur la biologie et tout ce qui est médical, les règles, c'est une chose positive. Il y a l'homme pour poursuivre sa conquête du monde. Je veux dire, avec les règles, on peut donner naissance, donc c'est pas mal.
Mais c'est ce que je dis, si les hommes avaient leurs règles, c'est dans les stades de foot qu'on jetterait des tampons en canon, tu vois, genre c'est sûr.
Et surtout, les préservatifs, je voudrais juste souligner à l'université que les préservatifs existent aussi pour les femmes. Donc il n'y a pas juste les préservatifs pour un pénis, il y a aussi des préservatifs pour des vagins.
Tout à fait.
C'est aussi important de mettre des distributeurs qui tiennent compte de tout le monde.
C'est ça. Mais c'est pas, enfin, les préservatifs féminins sont très peu démocratisés. Ouais. Du coup, c'est vrai que c'est peut-être moins accessible. Enfin, je pense
même
peut-être
en pharmacie, c'est difficile.
C'est ça. Donc, je pense d'un point de vue pratique, au niveau de ce qu'ils peuvent avoir comme stock et comme choses comme ça, je pense que c'est encore un truc à développer dans la société en général et pas forcément sur le corps.
Mais c'est trop bizarre parce qu'il y avait juste les préservatifs dans les toilettes des hommes et donc c'est juste eux qui baisent ou quoi.
C'est ça, mais on attribue la sexualité aux hommes et du coup, la problématique des règles aux femmes.
Ouais.
C'est nul. Enfin, les femmes,
Oui, totalement, c'est vrai que c'est assez étrange. Et on pourra continuer ce débat d'ailleurs plus tard parce qu'on va retrouver la chronique de Clara. Mais pour l'instant, je vois que le temps passe. Donc, on va enchaîner sur la prochaine musique qui s'appelle Shuga Shuga de Népal. Et c'était Shuga Shuga de Népal. On adore vraiment.
Lovely oh, boy.
Lovely, exactement.
Je sais pas, il m'a fait n'importe quoi ce truc là.
C'est pas grave. On a l'habitude, on sait comment réagir, on se débrouille, il n'y a pas de souci. Tout de suite, on va passer à ma chronique, tout simplement. Non, je n'ai pas décidé de parler de toilettes, oh, je m'en excuse.
Il était plus original que nous.
J'ai raté le mémo, je suis désolé. Exactement. J'ai combiné en fait deux sujets qui me touchaient. Non, je ne suis pas trans, ça ne me touche pas directement, mais c'est vrai que, étant homo, je fais partie de la même communauté, on va dire, d'un côté. Et le cinéma, en fait. Ou plutôt la représentation et l'influence qu'a le cinéma sur la création des images de nous-mêmes et la représentativité. Vous l'avez peut-être vu, c'est un sujet quand même assez transversal dans mes chroniques depuis que je suis à la banane verte. J'ai l'impression que je ne parle que de ça, mais c'est parce que je ne peux que accentuer l'importance que ça a de pouvoir se voir. Donc la question des images et de l'influence qu'elles ont sur nous m'a toujours particulièrement intéressé. Et on sous-estime souvent l'impact que le cinéma, les médias, les images, les BD, etc. blablabla, ont sur la construction des identités d'une personne, d'un groupe, d'un individu et même d'un pays. On peut penser notamment à l'Italie qui, après la période fasciste, a pu se recréer une image et une cohésion nationale à travers des grands cinéastes comme Fellini, etc., où ils ont fait remonter la culture italienne d'avant ces périodes-là. Donc certaines études démontrent que 80% de la population ne connaît pas de personnes trans dans son entourage ou dans son entourage étendu. Et donc la plupart des informations qu'ils ont et l'image qu'ils se font de ces gens-là, c'est à travers les médias et le cinéma. Et ça veut dire aussi, devinez quoi, que si la population générale ne connaît pas de personnes trans, les personnes trans, eux non plus, ne connaissent pas d'autres personnes trans. Ce qui est extrêmement problématique. Donc on tombe sur cette question de l'importance d'une histoire large et variée, mais aussi représentée pour pouvoir se retrouver dans un portrait, un style, une possibilité, un chemin de vie, n'importe quoi. Les gens ne peuvent pas être ce qu'ils ne peuvent pas voir ou se voir. Je ne peux que accentuer l'importance de cette phrase. Donc pendant des dizaines d'années, le cinéma mainstream, principalement hollywoodien, nous a appris comment réagir à la transidentité. L'idée de la représentation trans est d'abord apparue à travers l'humour, les blagues, le déguisement, toujours associé à un sketch, une moquerie, mettant en lumière la différence entre rire de et rire avec. Et très vite, l'idée du cross-dressing s'impose comme une méthode de comédie efficace, facilement identifiable et stéréotypée. On retrouve même chez certains, comme Hitchcock, cette idée de transgression d'un homme de genre comme quasiment obsessive. Mais petit à petit, il se détache un peu de cette idée de simplement d'humour pour varier, on va dire, les plaisirs, mais plutôt varier les champs des émotions que nous font ressentir la transidentité. Donc, on retrouve petit à petit la transidentité comme moyen d'occuper un espace qui n'est pas le sien. Je pense qu'on connaît tous ce film ou ces films où un garçon se déguise en fille pour accéder à, je sais pas, une soirée, un truc, ta.
Même les Big Mama et compagnie.
Exactement, ouais. Ou bien même les filles, ça arrive plus souvent que les garçons, parce que là, ça traduit deux discriminations. C'est les filles qui doivent se déguiser en garçon pour accéder à un poste. Ou se déguiser en garçon pour être avocate.
Pour jouer au foot, des trucs comme ça.
Exactement, joue là comme ouais. Beckham, je crois, ou ce genre de choses. Et là, ça pose un double problème. Déjà, il y a la discrimination vis-à-vis des femmes. Et surtout, ce genre de film se termine tout le temps par une révélation sous veste de « voilà mes seins » ou « je ne suis pas un homme », etc. Et donc, au final, ça revient plus à une affirmation de l'identité de la femme que réellement la possibilité d'être trans. Et quand je dis trans, ça va tout ce qui implique avec. C'est plutôt la transidentité. Et donc, on retrouve ensuite une autre variante qui est tout aussi problématique, c'est l'idée du transpsychopathe qu'on retrouve par exemple dans Psycho, dans Le Silence des Anneaux, où on a toujours ces idées de psychopathes qui veulent s'approprier les femmes et porter leur peau ou détruire les femmes. On a vraiment cette violence inouïe qui se transcrit et la maladie, donc la psychopathologie qui se retranscrit par il ne veut plus être dans la peau qu'il est, il ne veut plus être dans le genre qu'il est. Et puis souvent, c'est pas un doute. Je pense qu'on a tous regardé ces séries CSI Miami. Les rôles le plus souvent joués à la télévision moderne par des personnes trans, c'est, je vous laisse deviner, Est-ce que vous avez une idée?
Le comic relief.
Non, mais le rôle, l'incarnation de quel type de personnage c'est? C'est un personnage culte qu'on retrouve en général dans toutes les séries policières, souvent mort ou pas.
Qui s'est tué dans la rue?
Si. Oui, la prostituée.
Ouais. Ah, oui. La prostituée.
Ouais, et c'est vrai que 80% des rôles trans au cinéma ou à la télé, c'est des prostituées. C'est des vraies statistiques, hein, c'est catastrophique. Ouais. Et au final, il est vrai que c'est une forme de précarité dans laquelle ces femmes sont plus souvent poussées que les femmes cis-hétéro en moyenne. La discrimination à l'emploi et au chômage est 3 fois plus élevée chez les personnes trans que la moyenne nationale. Et puis, dans ces rôles policiers, il y a une autre statistique qui, moi, m'a choqué quand j'ai lu. C'est que, oui, elles jouent souvent des prostituées, mais dans 80% du temps, ces prostituées finissent mortes. Je trouve ça d'une violence. C'est terrifiant. Et donc, ensuite, on passe aussi à ces types de films où, là, on voit des personnes trans représentées dans une réalité dite normale, mais qui ne se sentent pas nécessairement out, ou dont le secret, je mets ça entre guillemets parce que ce n'est pas un secret, mais n'est pas su ou dit ouvertement au personnage qui entoure le héros principal. Et donc, on arrive donc à cette question de la réaction, la découverte. Et la plupart du temps, c'est l'intrigue même du film et ça apparaît donc comme toujours problématique. C'est un peu le même problème que le même principe que le coming out. Et la réaction est souvent violente et passe par une idée donc de trahison, de mensonge, comme si la personne trans n'avait pas été honnête, faisant ainsi passer leurs sensations comme secondaires. C'est comment réagit le personnage à ce coming out qui est important en fait pour l'histoire. Et du coup, ça fait assumer tout le poids de la honte, de la culpabilité ou même de la violence parfois à la personne trans. Et ça arrive dans des extrêmes, même dans certains films comme Ace Ventura, etc., qui sont des classiques de la comédie, mais à un point où la violence peut être justifiable. On peut réagir en tapant une femme trans, on peut réagir en vomissant à une femme trans, ou aux hommes trans, je dis ça, mais c'est plutôt les femmes trans, parce qu'il faut savoir qu'effectivement, c'est plutôt les femmes trans qui sont représentées à la télé, je vous expliquerai pourquoi. Et puis ensuite, on arrive au milieu des années 2000, lorsque la présence des personnes trans a commencé à s'affirmer, et que ce n'était plus seulement une blague qu'ils voulaient s'imposer, être là, rester. Et la conversation, là, s'est alors centrée sur la chirurgie, comme si la réalité de ces gens n'existait qu'à travers leur partie génitale. C'est devenu une forme d'exploitation pour sensationnaliser le sujet. Et je pense qu'on a tous vu ces talk-shows un peu trash, de sujets un peu des fois « est-il son vrai père ?» etc. Et souvent, des personnes trans étaient invitées et ils relataient leur story. Et souvent, ça se terminait par la question de la chirurgie. Et parfois même dans des grands shows, dans des grands talk-shows comme chez Oprah au début des années 2000. Et ça, c'était compliqué à assumer au début. Puis finalement, on arrive dans l'ère du grand cinéma, des histoires oscarisées. Mais là, toujours le même problème de la représentativité. Ces femmes ou ces hommes trans sont joués par des personnes normalement hétéro et blanc. On pense à Eddie Redmayne dans The Danish Girl, Cillian Murphy dans Ruby, Jared Leto dans Dallas Buyers Club. Le problème ici, c'est que ce ne sont pas des personnes trans. Et du coup, cette réalité apparaît comme déguisée. La transidentité ici n'est qu'une performance de la féminité pour ces gens-là. Le problème, c'est qu'avec ces rôles, la transidentité n'est qu'une expression de la féminité ou de la masculinité et non pas une simple particularité ou une simple réalité en tant que telle pour la personne. Et en fait, ce qui découle de ça, j'avais trouvé très intéressant, certaines études montraient qu'une des raisons pour lesquelles les femmes tuent, les hommes, ou plutôt les personnes trans se retrouvent beaucoup plus souvent assassinées ou tuées, c'est qu'on a peur que les gens qui se couchent avec elles soient gays ou lesbiens pour les avoir fréquentées. Parce que dans la tête des gens, dû à ces films-là, on les voit comme des hommes déguisés ou des femmes déguisées, et non pas comme le genre auquel elles veulent être reconnues. Et on en fait donc un déguisement et non pas une réalité. Et très vite, on comprend que ces films ne sont pas faits avec les personnes trans en tête. Ça pose la question de qu'est-ce que ça veut dire de raconter des histoires d'une réalité dans laquelle on n'existe pas. Et ça, tous les médias, en fait, ont mis pas mal de temps à se poser la question. Et puis, également, autre fact que j'avais noté, que j'avais trouvé extrêmement intéressant, c'est pourquoi, comme je vous l'ai dit avant, pourquoi voit-on beaucoup plus de femmes trans que d'hommes trans? Est-ce que vous avez une idée? Ça m'avait surpris.
Je pense que dans l'idéal stéréotype, c'est plus facile de s'imaginer une femme qui fait ça qu'un homme, parce qu'il y a tout l'honneur de l'homme, la masculinité. C'est beaucoup plus difficile d'accepter au niveau social aussi, je pense.
Alors, c'est une bonne idée, mais il y avait... En tout cas, je ne l'ai pas noté dans mon texte ou dans les recherches que j'ai fait. Clara, je ne sais pas si tu as une idée.
Peut-être aussi parce que c'est quelque chose de plus accessible. Enfin, je ne sais pas, depuis jeune, par exemple, que ce soit dans la gestion du maquillage, c'est des petites choses qu'on apprend au fur et à mesure et qui maintenant se démocratisent. Mais je pense que quand on pense aux trans de l'époque, il y avait peut-être un peu plus de mal, etc. Enfin, c'est des petites choses de la féminité qui fait que c'est plus voyant. Alors qu'être un homme, j'ai l'impression que c'est plus accessible.
Alors, exactement. Ça fait en partie... En fait, ça revient, c'est lié à l'idée de l'image et de la sensationnalisation de l'image. Donc, c'est vrai qu'une transition vers un sexe masculin, c'est moins impressionnant. Mmh. C'est triste à dire, mais c'est vrai que c'est moins impressionnant qu'une transformation vers un sexe masculin. Et du coup, c'est beaucoup moins commodifiable et sensationnalisable et beaucoup moins bankable pour les gros studios. Et j'ai trouvé ça assez triste. Et du coup, bah, y a un paradoxe dans tout ça, c'est que en voulant accéder à plus de représentation, c'est aussi une forme d'exposition. Et l'exposition, ben, c'est dangereux pour les communautés marginalisées, parce que plus la communauté gagne en confiance et en visibilité, plus ils sont mis en danger. Et de nos jours, la représentation n'a jamais été aussi importante, mais ça va de pair avec les cas de meurtre, malheureusement. Les cas de meurtre trans n'ont jamais été aussi hauts, notamment aux États-Unis. Et c'est vrai que c'est assez effrayant. Et puis finalement, juste peut-être une petite recommandation. Si vous intéressez à ce sujet, et plus généralement... à la vie LGBT, aux vies black, trans, queen de ces gens qui sont sortis, qui ont commencé à mettre en avant cette culture-là. C'est arrivé au début des années 70-80 à New York. Je vous conseille le film Paris is Burning. Il y a plein de problèmes autour de ce film, mais ça reste quand même une des stepping stones de ce mouvement-là. Oui, Clara ?
Je tiens juste à préciser aussi que dans le cinéma actuel, enfin surtout dans les séries, il y en a deux qui sont sortis pour moi vraiment très très bien à ce niveau-là, et de la représentation de la transidentité en tant qu'une normalité. Si tu ne le sais pas, tu ne le remarques limite pas. Après, le scénario, par exemple, c'est Sense8 et Euphoria. Donc dans le scénario de Sense8, ça vient, mais c'est pas le premier truc qu'on explique, et je trouve ça très bien abordé. Et dans Euphoria, c'est pareil. Il y a plein de gens qui sont passés à côté de la transidentité de l'actrice Hunter Schafer.
Exactement.
Et du coup, je trouve que c'était traité, mais de manière fabuleuse.
Ça a été amené très discrètement, d'ailleurs, le sujet. J'ai trouvé ça très poétique. Et là, tu voulais réagir.
Ouais, je voulais dire, c'est super bien. C'est vraiment, j'ai adoré ce que tu as dit. C'était super intéressant. Et j'ai trouvé intéressant aussi le fait que, bah, aussi, comment on représente les personnes transgenres, c'est souvent comme une personne qui se déguise.
Oui.
Et c'est très, très problématique parce qu'il y a une différence à faire entre les personnes que, dans le quotidien, ils sont juste eux. Et puis, ils ont aussi une autre partie de la vie où ils aiment bien. Se déguiser, c'est que presque, je me souviens plus spécifiquement comment ça s'appelle.
Travestir.
C'est
la différence entre
travestir. Mais travesti, c'est un peu. Maintenant, il y a un peu toute une.
Une
connotation négative. D'accord. Ouais. Travestissement, c'est un peu négatif. Donc, il y a un autre terme que je me souviens pas. Mmh. Mais donc, il y a complètement une différence entre une personne qui peut être de n'importe quel genre, ou bien aussi, souvent, c'est des personnes très hétérosexuelles qui le font. Et c'est comme une partie de leur vie. Et puis, il y a une autre différence entre une personne transgenre qui fait une transition. Et c'est rigolo parce que bah, c'est vraiment pas représenté. Il n'y a pas de différence entre les deux quand il y a vraiment une grosse différence.
C'est ça. Donc, juste faire attention au niveau des termes, du coup.
Ouais.
Qu'on
surtout,
utilise.
Ne pas associer une personne qui, justement, se déguise. Je vais dire se déguise, mais je suis pas sûre que c'est le bon mot. Et une personne qui, par contre, fait une transition. Mais donc, ouais.
Moi, j'ai utilisé le mot trans vraiment dans le sens de transidentité. Donc, c'était pas... C'était pour abrévier.
Non, mais ce que tu as dit, c'était fait. Mais j'ai entendu dans les représentations du cinéma que souvent, ils faisaient cette erreur.
Oui, exactement.
Et, et c'était, ouais.
Mais c'est bien parce que ça commence à évoluer. Et à savoir aussi que beaucoup de ces informations viennent d'un documentaire sur Netflix qui s'appelle « Au-delà de la transidentité », la notion transgenre au cinéma. Et donc, c'est extrêmement intéressant. Je vous encourage. Et je finirai sur... Parce que ma chronique est extrêmement longue, donc je m'en excuse.
On n'est pas du tout à 14 minutes.
Exactement. C'est très
ça valait
peu
la peine.
Radiophonique, je m'en excuse. Mais à la fin, ce documentaire posait la question, que j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, c'est comment savoir comment ces gens ou comment un homosexuel, une lesbienne aurait vécu sa vie sans voir de représentation d'elle ou de son milieu à la télé. Quelle image d'elle-même aurait-elle eu ou de lui-même aurait-elle eu ? Ça, je trouve ça extrêmement intéressant, donc je vous laisse vous poser la question et on termine là-dessus. Tout de suite, on va enchaîner avec une musique que j'ai voulu d'ailleurs d'une artiste trans qui s'appelle Sophie, qui nous a malheureusement quitté d'un accident l'année passée, mais qui est à l'avant-garde de la pop. Et ce morceau s'appelle Immatériel. Je vous conseille d'aller écouter ces morceaux. Et nous voilà de retour. C'était Immatériel de Sophie. Vraiment, je ne peux que vous encourager à aller écouter ces morceaux. Elle a produit sûrement la plupart des grands artistes que vous écoutez. Vraiment, c'est une génie dans son domaine.
La musique faisait moins de 2 minutes, du coup on n'était pas prêt.
Elle était extrêmement rapide, c'est pour ça que je l'ai choisie, parce que je sais que mes chroniques sont un peu longues. Je le savais. Enfin bref, on va tout de suite enchaîner sur la chronique de Clara, qui va nous parler de...
Devinez quoi ?
Comment tambour ?
Mais en plus je m'en veux, parce qu'il y a tellement de choses que j'aurais pu aborder, genre vraiment que ce soit rien que la transidentité en Thaïlande, où je sais que justement il y a énormément même de concours, c'est suivi par la majorité du pays, enfin il y a tellement de choses que j'aurais voulu aborder et que j'ai fait banalement la question des toilettes, en plus des 2 autres chroniques qui étaient déjà sur le sujet. Donc sachez que si on refait un round sur la transidentité, je serais très heureuse.
Ouais, mais il faut parler pendant des heures.
Tout à fait.
Round two.
Bah, c'est la question la plus actuelle, on va pas se mentir. Aussi.
C'est ça, et c'est justement, mais il y a plein de questions qui se posent, justement, tout le système, je pense qu'on est vraiment dans une période de transition. On est vraiment dans une...
Non.
Pardon, on va éteindre ton micro.
Mais c'est ça, on est vraiment dans une période de transition sociale au niveau de la sexualité, au niveau des genres. Du coup, je trouve ça hyper intéressant de pouvoir traiter ces sujets-là. Mais du coup, bah, justement, vu que c'est dans toutes les bouches, bah, on était juste tranquillement dans la cuisine avec ma colocataire. Et on a dérivé justement sur ces questions de toilettes non-binaires, parce que justement, on parlait de l'université qui allait justement changer les stickers à l'entrée des toilettes. Donc moi, j'ai trouvé ça, ça m'a fait trop, trop plaisir. Et j'ai pas pu m'empêcher quand même un petit instant de voir que... Il y a ces changements qui sont quand même dans des espaces qu'on estime quand même safe, comme l'université, comme bah justement les soirées queer, où justement il y a quand même un mindset qui est différent. Je ne dis pas qu'on est à l'abri de toutes les agressions, on en a même discuté tout à l'heure avec Edouard, qui a dit que voilà, il y a autant d'agressions dans les milieux queer que dans les milieux hétéros. Mais je pense quand même qu'il y a une autre notion de ça. Et je me suis penchée aussi un petit peu sur le sujet des boîtes, qui est du coup l'extrême... parce que justement dans les établissements de tous les jours, moi je vois aucun inconvénient. Par contre, celui où ça pourrait me gêner, et au final c'est pas du tout la faute des gens en trans, au contraire c'est juste une question de prédateurs de base qui sont justement dans ces boîtes là. Et en fait, en tant que femme, je sais que je me suis retrouvée dans cette situation où j'ai dû, entre parenthèses, fuir un prédateur dans les toilettes. Et la porte du genre, pour le coup, elle m'a été salutaire, parce que bah, la personne n'est pas rentrée. Ou... Voilà. Donc, il y a quand même ce truc où ce safe space était dans les toilettes des femmes. Et du coup, ce n'est pas du tout les personnes trans que je considère comme un danger, mais juste ceux qui peuvent justement rentrer dans ce safe space et qui ne sont pas concernés par justement cette problématique. Donc... c'est juste ces établissements qui sont moins propices à la bienveillance, et du coup, ça se pose des questions par rapport aux applications. Donc, je suis dans l'idée où il faut trouver des solutions pour que personne n'ait à se sentir exclu dans les espaces sanitaires, mais juste affiner un petit peu l'idée pour éviter les dérapages. Parce que je le vois arriver gros comme une maison, que tout d'un coup, je ne sais pas, imaginons la boîte de base où il y a le plus de problèmes, le MAD, les toilettes sont ouvertes à tout le monde, n'importe comment. C'est le lieu propice où on va avoir des idées, des histoires de viol, des histoires comme ça. Et j'aimerais trouver une solution. Donc, on a eu plusieurs idées autour de la table dans la cuisine. Donc, on a d'abord pensé à un petit sticker sous une inscription précisant que vous êtes les bienvenus si vous êtes de la communauté queer, etc. Que vous pouvez venir dans ces toilettes sans souci. Mais du coup, ça impose aussi une régulation avec une limite très, très simple. C'est qu'il faudra mettre un videur devant pour vérifier du coup qui est légitime de rentrer ou non. Et du coup, ça laisse la place, c'est super glissant. C'est super problématique, parce que du coup, qui est le videur pour estimer à quel point tu fais partie de la communauté? Pour moi, c'est juste le problème, c'est trop glissant. Donc juste déjà mettre un videur tout court au cas où il se passe quelque chose dans les toilettes, c'est une idée, mais devant la porte pour vérifier qui est légitime ou non, pour moi, c'est pas la bonne chose. Après, il y a aussi la mise en place de toilettes neutres, non-binaires, qui seraient un espace défini pour toutes les personnes concernées. Parce que comme tu l'as dit, on a les personnes trans, mais on a aussi les personnes non-binaires qui, du coup, sont neutres et qui font comme toi, qui vont de l'un à l'autre, etc. Ou qui auraient peut-être envie d'avoir un espace qui leur correspond, dans lequel ils peuvent rentrer sans se poser la question.
Ouais, une troisième toilette.
Une troisième toilette. Après, l'inconvénient, j'essaie de faire un peu l'avocat du diable à chaque fois. L'inconvénient, c'est que si on va vers ces établissements-là et qu'on leur dit « voilà, fais une troisième toilette », ils vont dire « très bien, c'est qui paye ?» parce que ça demande quand même des coûts, ça demande une infrastructure, ça demande de l'espace.
Donc, de l'entretien.
De l'entretien. Mmh. Et du coup, c'est pour ça que je pense que pour nous, c'est très important, et même surtout en particulier pour les architectes qui, de notre génération et du futur, qui vont pouvoir, qui vont pouvoir créer des espaces dans lesquels c'est pensé, ou même que ce soit au niveau justement des règles dont on parlait tout à l'heure, de mettre un lavabo dans les toilettes, parce que maintenant, on va passer certainement, de par des mesures écologiques et sanitaires, à des cups, à des culottes menstruelles. Et franchement, ça fait chier de devoir laver sa culotte ou sa cup dans le lavabo commun, alors qu'on pourrait avoir un petit lavabo à l'intérieur des toilettes qui pourrait nous donner quand même une certaine intimité pour ça. Il y a plein de choses que du coup, les architectes, ils ont du pain sur la planche au niveau du genre, au niveau des toilettes, je pense. Et après, voilà la troisième option qui serait du coup en dehors des toilettes. Moi, j'étais toujours pour l'idée de mettre une toilette neutre, mais du coup, en attendant, il y a la troisième option qui me plaît beaucoup et qui, pour tous les établissements qui ne pourraient pas offrir des toilettes non genrées, celle-ci proposerait un établissement, un espace, que ce soit comme dans les festivals avec un petit stand ou une pièce avec des personnes formées qui pourraient aller, qui pourraient faire office de safe space dans lesquelles, si on se sent en danger, si on se sent suivi, si on a subi une agression dans la boîte, s'il se passe quelque chose, que ces personnes-là soient là pour nous accueillir et qu'ils puissent prendre en charge la personne qui est probablement en état de choc, pouvoir localiser la personne ou l'agresseur directement, parce que c'est vrai que quand on est en état de choc, on a de la peine à dire comment, du pourquoi, etc. Alors du coup, des personnes qui sont capables de sortir les informations, de pouvoir collaborer avec les Securitas pour pouvoir localiser l'agresseur, traiter, prendre son identité pour pouvoir déposer plainte par la suite. Donc c'est des choses qui pourraient être vraiment très très salutaires, et même avoir une écoute, un espace aussi calme dans lequel on peut réfléchir, dans lequel on peut se remettre tranquillement. Je pense que c'est très, très important, et surtout avec des personnes formées. Parce que c'est vrai que le premier réflexe qu'on a quand on a un problème en boîte, on va voir le videur tout paniqué, genre « fais quelque chose » et tout. Et le mec n'en a en général strictement rien à faire. Et il n'est pas du tout formé pour ça, il ne sait pas du tout comment gérer la situation. Mm-hmm. Donc autant former les videurs, mais surtout mettre en place justement, que ce soit par des psychologues, des assistants sociaux, qui en aient dans les boîtes ou même autour des secteurs de boîtes, si vraiment les boîtes n'ont pas les moyens d'avoir ça.
C'est vrai que les boîtes sont plutôt regroupées, en tout cas dans les villes. Comme Lausanne, par exemple,
tu en mets une au Flon, tu en mets une à la Cité, au moins qu'on puisse avoir quelque chose de rapide et d'efficace, parce que c'est dans les premières heures qu'on peut faire des choses, qu'on peut justement localiser les agresseurs, faire des prélèvements. Il y a énormément de choses qui se passent.
Et puis, comme tu as dit avant, quand on discutait, comme ça, les toilettes ne deviennent plus le safe space. Les toilettes, c'est juste toilettes. Et là, on peut après actuer la non-genrée des toilettes.
Exactement. Les toilettes ne sont pas censées être un safe space. Et c'est le problème qui se posait, parce que du coup, en tant que femme, tout d'un coup, s'il y a tous les hommes de la boîte qui peuvent aussi rentrer, tout d'un coup, je ne me sens plus en sécurité. Et comment pallier à ça? Donc, ce n'est pas du tout la faute de la transidentité, mais justement des hommes cis, qui, je veux pas, c'est pas une généralité, je n'aime pas les généralités, mais parmi eux, il y a effectivement des prédateurs. Et du coup, il faut justement pouvoir régler ce problème aussi, de par l'éducation, par plein de choses, et il faut aborder ces sujets avec la nouvelle génération. Voilà. Ouais. À peu près, j'ai pas du tout suivi mon plan de chronique.
Ah, moi non plus,
j'ai fait un peu, voilà. Mais du coup, est-ce que vous avez des solutions? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous vous sentez en sécurité quand vous allez dans les toilettes, dans des boîtes de nuit ou dans des bars?
Moi, j'aimais bien ton idée. J'ai quand même... Je suis un peu sceptique, malheureusement, pour la mise en pratique, mais...
Ça prend du temps.
Ouais, exactement. Enfin, c'est pour plein de raisons. Ils vont sûrement dire, si c'est des gens en plus, c'est des salaires à payer en plus.
Tout à fait.
En vrai, j'aimerais bien.
Mais même dans la prévention de la justice, l'argent que ça coûte dans la justice, de retrouver les gens, de faire des enquêtes, etc., limite, ce sera beaucoup plus anticipé. Les choses seront faites proprement dès le départ.
Et surtout, comme tu as dit avant, les architectes doivent penser à ça, à nouvelles constructions adaptées à tout le monde. Mais surtout, la loi doit un peu se mettre à jour. Parce que pour la loi, c'est obligatoire d'avoir des toilettes, hommes et femmes, je pense, pour l'instant. Ou au moins assurer des toilettes. Et je pense que si la loi se met un peu à jour en disant qu'il faut des toilettes qui incluent tout le monde, tout le monde serait obligé de faire ça. Et même s'ils n'ont pas le moyen, ils vont trouver les moyens. Parce que sinon, ils ne peuvent pas ouvrir.
C'est ça.
Time is going.
En tout cas, merci beaucoup pour ces chroniques. C'était extrêmement intéressant. On voit que c'est les sujets d'actualité qui font débat. Et c'est le cas parce que l'université est dans cette période de transition où les toilettes neutres font leur apparition et ne laissent pas, en tout cas... ça fait beaucoup parler, en tout cas. Enfin, on aimerait continuer à parler de ce sujet encore un long moment, mais malheureusement, on n'a pas toute la soirée. On va enchaîner directement sur la musique d'Orelsan, Shonen, qui a sorti son album la semaine passée. D'ailleurs, je me suis dit qu'on aurait pu mettre plus d'artistes trans, on n'en a pas assez mis.
Ouais. On fera un épisode 2.
On fera un épisode 2, exactement. Il y a Sophie, mais je ne sais pas si vous voulez en citer. Il y a Kim Petras aussi, si vous voulez écouter, c'est génial. Je ne sais pas si vous en connaissez d'autres.
Non, malheureusement, non.
Mais n'hésitez pas. Donc, Sophie et Kim Petras, c'est vraiment génial. Allez-y, écoutez. Tout est bon. Donc, on enchaîne tout de suite avec Shonen d'Orelsa.
Fréquence banane. Il est 21h.
On n'a pas pu terminer cette chanson d'Orelsan, mais allez écouter l'album quand même, il est génial. Je donne que des recommandations musicales ce soir. Je
pense qu'on T'as bien aussi des films.
Oh, exactement, et deux films. Je pense qu'on va changer totalement...
Alors, les trucs à se rappeler, c'est le documentaire.
Paris is Burning, ouais. Regardez. Mm-hmm. C'est un le documentaire est problématique dans le sens où il n'a pas du tout changé la réalité de pauvreté des gens qui étaient mis en avant dans ce documentaire. Donc, c'est-à-dire que ça parle de la culture ballroom black et queer des années, fin des années 70, début des années 80 à New York.
Puis il y avait la musique.
Et il y avait aussi le film Transidentité, donc Au-delà de l'image, qui est sur Netflix. Vraiment, c'est une perle et c'est surtout, vous comprenez pourquoi, que ce soit pour les personnes trans, pour les personnes gays, lesbiennes, non-binaires, la représentation et la représentativité est capitale. Donc, et allez le regarder. Et au niveau des artistes trans, Kim Petras, je vous encourage à l'écouter, c'est génial, c'est de la pop, c'est super frais, c'est trop bien. Et Sophie, elle a sorti plusieurs albums, malheureusement elle est décédée, mais c'est incroyable. Tous les grands artistes ont fait appel à elle pour remixer ses sons ou pour les produire. C'est vraiment une artiste incroyable et les deux, Kim Petras et Sophie, sont des artistes trans.
Et puis aussi, si vous voulez, l'association Plan Queer de l'université, si vous voulez, vraiment c'est cool. Il y a fêtes, soirées, films,
écoute,
moments et puis c'est un espace d'écoute justement. Donc c'est pas mal.
N'hésitez pas, je pense que vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux.
Ah oui,
très facilement.
Juste Plan Queer, okay. Il y a tout.
Plan Queer de l'Uni. Enfin voilà, on arrive à la terme de cette émission. J'espère que ça vous a plu. On voit que c'était un sujet animé qui nous passionnait tous. On est tous un peu en train de se noyer à la fin du semestre, mais je pense que ça nous a fait à tous du bien de venir parler ce soir, de venir discuter avec un peu plus de légèreté et de créativité. On espère qu'on a offensé personne. On a essayé de parler avec notre cœur et d'être le plus juste possible.
Je suis désolée que moi, perso, j'ai pas réussi à parler inclusivement. Et je vais essayer de plus en plus. Et je pense que, surtout si on parle de sujets comme ça, il faudrait le faire. C'est juste qu'on n'est pas habitué à l'université.
Le langage, c'est de base un réflexe. Donc, on essaye de l'habituer, de le réapprendre.
Il faut faire ça.
Mais ce n'est pas la volonté qui manque, en tout cas.
Yeah, yeah.
Et puis, c'est une bonne question. Vu que tu es italienne, il y a aussi ces questions qui se posent avec l'italien actuellement.
En italien, c'est super compliqué. Je ne sais même pas comment faire les pronoms, les articles. Je suis en train de chercher. Il n'y a pas. Si en français, maintenant, le dictionnaire... heureusement, à Admi Yel, en italien,
c'est pas pour la c'est vrai. Enfin, voilà, on espère que cette émission vous a plu. Ouais. C'était la dernière de la saison. On se retrouve l'année prochaine, sûrement à la rentrée. On va essayer d'être là durant les deux premières semaines, donc après le mois de février, donc probablement début mars. On vous souhaite à tous des magnifiques fêtes, peu importe ce que vous fêtez, et surtout une belle nouvelle année. Profitez de la vie et profitez de vos proches surtout. Passez des super bons moments. On vous dit à l'année prochaine et tout de suite, on termine sur un son de Sophie dont je vous parlais avant, une remix qui s'appelle Sweat.
Exactement.
Bisous.
Bonne soirée.
Bisous.